Vous écoutez Quoi de meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Bienvenue dans cet épisode court consacré à un objet culturel. Cette semaine, on va parler d'amour et de BD avec notre esthète et spécialiste de la question, Anne-Laure Pinault. Salut.
Salut. On va donc parler de la rose la plus rouge s'épanouit, de la dessinatrice suédoise Liv Strömquist.
Très bonne prononciation.
La prononciation est dure, mais quand on l'a, c'est bon. Qui a été publiée aux éditions Rackham.
Oui, ça fait très longtemps qu'on voulait parler d'elle, puisque c'est vraiment un des piliers de notre éducation féministe. Alors, qui est cette personne exactement?
Déjà, c'est une vraie star en Suède, mais aussi en France. Pour retourner à la Suède déjà, on se souvient de son dessin d'une patineuse avec une trace de sang sur la culotte qui avait été donc affichée dans le métro de Stockholm. Mmh.
La RATP qui ferait ça?
Non, enfin pas pour l'instant. Elle a écrit Les sentiments du prince Charles, I'm Every Woman et son petit best-seller ici en France est L'origine du monde, qui a fait un tabac et pour cause. Elle racontait donc comment le vagin, la vulve, enfin bref, l'origine du monde avait été centrale dans la compréhension du monde avant d'être totalement rayée de la carte, c'est-à-dire d'un coup, on ne les montrait plus. Donc on l'écoute à ce sujet-là.
I was just thinking, like, I really want to get into this and understand how this taboo is constructed. What is like the cultural, the historical reasons for this?
Pour les personnes qui ne parlent pas anglais, donc elle explique qu'elle voulait savoir comment ce tabou là a été construit et quelles sont les raisons historiques, voilà, pour ce tabou.
D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que Liv Strömquist penserait de la pub Nana, qui a fait pas mal polémique ces derniers temps. Donc, juste en suggérant, hein, c'est-à-dire qu'on n'en montre pas des vulves, mais on les suggère avec des fleurs, et des fruits, des rideaux.
C'est quand même une magnifique euphémisation du sexe féminin, et pourtant, ça fait quand même scandale, ce qui est doublement paradoxal.
Oui, le CSA s'est fait torpiller de réclamations, donc c'est quand même fou ce que ça génère, l'origine du monde, encore aujourd'hui. Donc bref, dans son travail en général, elle pratique super bien la vulgarisation sur le féminisme, le capitalisme ou même l'écologie. Tout ça pour un grand public, donc elle mélange érudition, culture pop, mais aussi grosses blagues. Elle écrit ses BD un peu comme on écrirait un gros statut Facebook hyper politisé, avec des majuscules, du gras, du souligné, des petites prise de colère, les apartés un peu en mode soliloque, notes pour plus tard qui sont hyper charmantes. Pour décrire son style, donc c'est du noir et blanc, c'est assez simple, il y a beaucoup, beaucoup de textes.
Hein, soyez préparés.
Ouais, il faut être prêt. Hein. Vous dites, je vais regarder une BD, je ne vais pas lire un livre. Là, vous avez les deux. Vous n'allez pas vous reposer les yeux, ça c'est sûr, mais vous allez en apprendre un max sur beaucoup de questions. Et il faut toujours lire ses bibliographies, parce que là, c'est un peu un must-read féministe en général.
Alors, on l'écoute parler de sa carrière.
I've been doing comics for, I don't know, my first book was published 15 years ago in Sweden. I come from like the fanzine do-it-yourself movement. So I was just starting doing my own little fanzine and I was very inspired from the feminist movement, from the feminist punk movement, from the Riot Girl movement and stuff like that.
Donc elle dit qu'elle a commencé dans les fanzines, tout comme le mouvement américain Riot Girl, et qu'elle a publié son premier livre il y a 15 ans déjà. Il faut savoir aussi qu'elle a un podcast qui a du succès en Suède et qu'en France, elle a notamment influencé une dessinatrice féministe qui s'est Myrion Malle, dont on a déjà parlé, et à qui on doit des super décryptages sur les séries ou sur Harry Potter pour montrer la représentation catastrophique des femmes et des minorités dans les contenus grand public.
Du coup, dans cette BD-là, de quoi parle-t-elle? Avec ce titre si mystérieux, on dirait presque un livre de Pancol.
Heureusement, c'est mieux. Donc le titre du livre vient d'un texte de la poétesse américaine Hilda Doolittle, dont il va être question dans le livre, puisque la dessinatrice va illustrer son propos à travers le parcours de plusieurs personnalités, donc de Kierkegaard à Beyoncé, voilà, en toute simplicité. Et cette fois-ci, elle va interroger la place du sentiment amoureux au temps des réseaux sociaux, des applications de rencontres, et plus généralement du XXIe siècle, sachant que le livre va remonter jusqu'à l'Antiquité. Et voilà, je trouve ça d'autant plus pertinent qu'on se pose beaucoup la question en ce moment de réinventer les rapports amoureux.
Oui, et d'ailleurs, elle avait déjà abordé la question plusieurs fois dans son travail. Est-ce que servir un homme plus âgé jusqu'à la fin de ses jours, quand celui-ci limite vous séquestre, est-ce que c'est ça l'amour?
Non.
Pourquoi y a-t-il un surinvestissement du sentiment amoureux du côté féminin? Pourquoi c'est toujours à nous de réclamer, de s'investir? Et pourquoi de l'autre côté, il y a justement un peu une latence?
On aimerait bien savoir. Donc justement, dans le livre, tout part en fait du parcours amoureux du célibataire le plus convoité au monde, c'est-à-dire Leonardo DiCaprio, qui vieillit d'année en année. Mais par contre, ses conquêtes successives, elles, rajeunissent, on n'est pas étonné. Et malheureusement, son couple, donc avec de nombreuses mannequins pour maillot de bain, ne fonctionne jamais. Donc je cite la BD, « Leonardo DiCaprio est comme une plaque de cuisson tiédasse qui ne fera jamais bouillir l'eau ».
C'est vraiment très très cool comme entrée en matière. Donc à partir de l'exemple de DiCaprio, elle passe après en revue plusieurs hypothèses qui sont vraiment présentées comme telles, donc elle se place un peu comme une petite scientifique. Donc si certaines sont de l'ordre de la psychologie et des évolutions sociétales, moi je trouve que la plus intéressante, je pense que tu es d'accord aussi, c'est l'implication du système capitaliste dans le désenchantement de l'amour. Donc selon l'autrice, c'est lui qui a complètement foutu la merde dans les rapports sociaux et qui les a donc déshumanisés en général et en particulier dans la question de l'amour. Donc elle s'entoure de beau monde hein, pour appuyer son raisonnement, elle ne pense pas à ça toute seule. Par exemple, le philosophe coréen Byung-Chul Han, j'espère que la prononciation est ok, sinon je m'en excuse, qui dit « Le narcissisme propre à notre ère du capitalisme tardif a profondément transformé notre société. On cherche le reflet de ses envies, voire son propre reflet dans l'autre. » Et je trouve que c'est relativement correct, surtout bon, en reprenant l'exemple de DiCaprio. Est-ce qu'en prenant des femmes toujours plus jeunes, il veut se rajeunir lui-même ?
La question est posée. Et tu l'as dit, elle s'appuie notamment sur une sociologue allemande qui s'appelle Eva Illouz, dont on connaît le livre « Pourquoi l'amour fait mal ?». Et elle dit que les sites de rencontres et les applications, donc OkCupid, Tinder et autres, en fait, avec leur trop-plein de choix, au lieu de nous aider, finissent par nous mettre vraiment des bâtons dans les roues, puisqu'on va traiter les gens en produits interchangeables, et donc dès qu'un produit est défectueux, on le jette et on en prend un autre, donc comme DiCaprio et les mannequins pour maillot de bain. Bref, donc en fait, cette définition matérialiste de l'amour aurait finalement remplacé la définition mystique et spirituelle qui prévalait jusque-là. C'est-à-dire que plus on va rationaliser et chercher des explications aux sentiments amoureux, plus ce sentiment va faiblir. Et donc, au lieu de vivre comme les jeunes gens modernes qu'on pense être, finalement, on va revenir au bon vieux mariage de raison, dans lequel l'amour va répondre à un scénario rationnel. Donc, je cherche quelqu'un qui me corresponde, etc. Et en fait, tout ça va venir court-circuiter notre intuition, alors que c'est justement à elle qu'on devrait se fier. Parce que normalement, traditionnellement, quand on tombe amoureux, on ne s'organise pas pour ressentir un sentiment, l'amour ne s'explique pas, il va se fixer sur un objet sans qu'on sache pourquoi, et d'ailleurs elle va donner de très bons exemples en disant que le sentiment amoureux, justement, c'est voir l'unicité de la personne de façon inexplicable. Et donc, voilà, elle se réfère à toutes les phrases un peu gnangnan que les gens disent. « Je l'aime tant avec ses petites narines.
» Oui, c'est archi mignon. Et ce qui nous intéresse aussi, quand elle parle de ça, c'est qu'elle ramène aussi le rapport entre le sexe et le genre.
Bon, ça alors ?
Évidemment qu'on va en parler, puisque sinon, c'est pas drôle. Donc, au 19e, un homme, un vrai, c'est un mec qui fait des grandes déclarations d'amour, qui formule des promesses et qui s'engage. Et de son côté, en fait, la meuf, c'est quelqu'un qui va rester plutôt impassible et en maîtrise. Donc, l'autrice donne l'exemple de Kierkegaard qui avait rompu ses fiançailles avec sa meuf et ça avait fait un énorme scandale dans la société. Genre, à l'époque, une promesse, c'est une promesse. Le mec a non seulement déshonoré cette femme, mais c'est surtout déshonoré lui-même, en fait. Ce qui est aujourd'hui qui semble presque...
Ah, ça a bien changé. C'était le bon vieux temps.
C'est sûr. Donc avec l'avènement des droits des femmes et donc, ce qui ferait frémir Zemmour, l'érosion de la masculinité classique, ça s'est complètement inversé. Les hommes ont transféré sur le sexe et la sexualité le contrôle qu'ils avaient jusqu'à présent, par exemple, dans le foyer. Donc ils travaillaient la journée, ils rentraient le soir, c'était eux qui avaient le pouvoir. Et donc la sexualité est devenue un domaine où ils peuvent vraiment afficher leur autorité, leur autonomie. C'est eux qui, c'est leur temps qui est important. Donc la sexualité reste un des marqueurs de la masculinité, c'est ce qu'elle dit. Elle se fixe principalement dans les rapports hétéro, où la nouvelle figure de l'homme accompli, c'est marquer son indisponibilité émotionnelle pour récupérer le pouvoir. Donc, du coup, en vient la phobie de l'engagement,
que l'on connaît bien,
qui lui permet de préserver ce statut-là de mal puissant. Donc, les règles du marché créent, enfin, on peut dire règles du marché, puisqu'on parle de capitalisme, créent une nouvelle domination masculine, et les femmes payent le prix de cette nouvelle domination, puisqu'elles subissent une domination émotionnelle. Elles doivent se caler sur cette domination-là et mettre en sourdine leurs propres désirs, leurs désirs affectifs et aussi leurs désirs de parentalité, et faire semblant, parfois, d'être des hommes. Donc, par exemple, elles peuvent mettre en scène une indisponibilité aussi pour répondre à remettre un peu les pendules à l'heure.
Oui, puisque c'est le comportement valorisé.
Exactement. Donc, bref, tout s'est complètement inversé et c'est vachement intéressant comment elle le présente dans cette BD-là.
Et donc elle dit qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues les hommes du 19e siècle et qu'en fait, on vit encore comme au Moyen-Âge. Et c'est en fait exactement ce que dit le sociologue Michel Bauzon, qui a notamment mené la grande enquête sur la sexualité de 2006 avec Nathalie Bajos et qui a écrit sur la sexualité... et la conjugalité, et lui dit que dans les rapports intimes et amoureux, aujourd'hui, tout ça se traduit par ce qu'il appelle une asymétrie affective. Et donc, le modèle qu'on connaît maintenant, c'est celui d'un côté d'un ou une gestionnaire, et de l'autre d'un ou une, mais plutôt d'un utilisateur. Et selon lui, évidemment, ce schéma va participer pleinement de la domination masculine. Donc je cite, « Les jeunes filles ne sont pas socialement libres de remettre leur corps et sont tenues d'être calculatrices, non seulement parce qu'elles doivent souvent anticiper seules les conséquences des actes sexuels, mais parce qu'elles continuent à être sévèrement jugées si elles ne se donnent pas à bon escient, c'est-à-dire si elles ne le font pas en essayant d'établir une relation relativement durable. » Donc comment sortir de ce paradoxe-là ? Je ne sais pas.
C'est un petit peu la merde. Oui, et surtout, les meufs qui suivent leur instinct et leur calendrier à elles, qu'ils soient biologiques ou juste affectifs, passent pour des meufs hyper crampons. Donc, c'est crampons de vouloir relationner, de vouloir se faire des petites soirées avec son mec, de vouloir organiser des vacances. Avant, il était justement bon ton de se languir, de s'anéantir envers et contre tout. Bref, maintenant, on vit dans l'auto-empowerment, je contrôle ma vie, etc., etc. Sauf que ça marche pas. Le modèle utilitariste et hédoniste, c'est ce que dit l'autrice, ne donne absolument rien. Pourquoi ? Parce que juste, on ne peut pas supprimer la souffrance. Il n'y a pas de pilule contre le cœur brisé. Enfin, à moins que je ne le sache pas.
Jusqu'à présent.
Pour le guérir ou pour le prévenir. Donc, comme dans une transaction pro, pour filer la métaphore du capitalisme, il faudra absolument une réciprocité totale. L'idée, c'est qu'il ne faut pas rester dans des relations misérables, il ne faut pas se soumettre à un conditionnement mental de faux empowerment qui fait qu'on est donc incapable d'aimer comme les connards. Mais bon, quel que soit le bout par lequel on prend la chose, l'amour n'est pas un devoir de vacances, ni un travail à temps plein. Il réclame une passivité dont on n'est pas trop capable dans notre société aujourd'hui, juste de se laisser faire, comme on dit. Être amoureux, c'est être complètement impuissant, sans bras ni jambes, une sorte de viande à kebab qui tourne sur elle-même, même dans un snack bar, capable de rien sauf de cramer, désemparée de ne pouvoir rien faire, sinon être une sorte d'espace d'accueil d'un désir. C'est ce qu'elle dit et ce qui est, je trouve, hyper vrai.
Très inspirant, comme ça donne envie.
Bref, après toutes ces élucubrations, quel est ton avis, Clémentine, sur cette BD ?
Bah moi, j'aime toujours autant Liv Strömquist, puisque je trouve qu'elle elle mêle très bien la mythologie grecque, la télé-réalité, et que c'est très drôle. Et que surtout, là, elle prend à rebours des modèles qu'on essaie de nous refourguer comme étant nouveaux, alors qu'en fait, c'est vraiment du réchauffé de vieux schémas réactionnaires. Donc, on l'a dit, les applis de rencontre, etc., etc. Après, je pense que la BD n'est pas parfaite. On peut la critiquer, notamment parce qu'elle fait un résumé de beaucoup de lectures. Donc, je ne sais pas si ça suffit réellement à faire un livre. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah moi, j'ai trouvé que cette BD était hyper dense. Elle dit énormément de choses. Je pense limite trop. Mmh. Et parfois, en plus, elle a une attitude à s'excuser de ce qu'elle avance. Peut-être que j'ai fait une erreur en l'interprétant comme ça. Et donc, cette distance qu'elle a par rapport à ce qu'elle écrit, je trouve un petit peu gênante. Ben non, Liv, en fait, assume ce que tu écris. Bref, je pense que ça aurait été bien qu'elle se concentre sur une hypothèse. Par exemple, juste rester sur le vilain capitalisme et pas... partir sur des choses un petit peu plus philosophiques. Par exemple, quand elle parle de la disparition de l'être aimé, l'amour qui s'arrête, je pense que c'est un peu hors sujet. Enfin, je me permets. Bref, elle mélange beaucoup de choses, elle mélange beaucoup d'époques, elle mélange beaucoup d'interprétations. Donc, c'est un peu énorme, mais en vrai, je pense que si on la lit 5-6 fois, eh ben, c'est super.
Ok, donc un petit peu indigeste. Et est-ce que tu as trouvé que c'était hétérocentré ?
Alors moi, ce n'est pas du tout un reproche que je ferais. Au contraire, parce qu'elle cite plusieurs histoires non hétérosexuelles. Donc ça, c'est super chouette. Je ne suis pas la reine des statistiques, mais je pense que c'est assez proportionné entre hétéro et non-hétéro. Donc on a adoré l'explication de texte d'Alcibiade au cœur brisé. Donc Alcibiade, l'amant de Socrate. Moi, j'ai surkiffé l'histoire de la poétesse Hilda Doolittle qui tombe éperdument amoureuse d'hommes comme de femmes. C'est un peu tragique et en même temps un peu comique parfois. Non, mon reproche, ce serait plutôt, je pense que c'est un peu ethnocentré parce qu'on parle que de blancs européens d'extraction assez privilégiée, que ce soit DiCaprio, Socrate Panoramix ou Lord Byron, on reste un peu toujours sur le même curseur.
Ouais, donc privilège blanc, privilège masculin. Bon, elle cite quand même longuement le philosophe coréen dont tu as parlé, Byung-Chul Young, que moi je ne connaissais pas en tout cas.
Oui, non plus.
Donc voilà. C'est vrai. Mais en tout cas, si la déconstruction des rapports amoureux vous intéresse, on peut aussi recommander la nouvelle série qui est diffusée sur Amazon Prime, Modern Love, qui est inspirée du podcast et de la chronique du même nom dans le New York Times.
Have you ever been in love?
No one's ever asked you that in an interview before.
I don't have to print it.
Print what?
That story that's written all over your face.
Moi, je sais qu'on va se disputer là-dessus, mais j'avais adoré la série Love de Judd Apatow qui était sur Netflix. Donc, comment un couple improbable, donc Mikey et Gus, qui sont amoureux sans qu'il y ait aucun sens dans cette histoire d'amour, peut exister en 2019. Je trouvais que c'était assez bien amené.
I have money, I can pay you back.
It's totally cool, it's on me.
Don't be a fucking hero. I'm Mickey.
I'm Gus.
Oui, moi c'est vrai que j'aimais pas, puisque je trouvais que la série reproduisait un cliché qu'on appelle en anglais le « attractiveness gap », c'est-à-dire la différence physique, donc un homme moche et une fille forcément plus belle. Voilà, ça m'avait un peu agacée, mais après c'est pas rédhibitoire. Et on peut aussi recommander l'essai « L'amour au temps des algorithmes » de Judith Duportail, qui nous montre bien les dessous du marché de l'amour.
Oui, c'est une immersion absolument dingue qu'on peut résumer en une phrase. Mythique et Tinder ne veulent pas votre bonheur. Lisez Liv Stromquist. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, donc @quoidemeuf. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de l'épisode si vous aimez Quoi de Meuf. Parlez-en autour de vous, laissez-nous donc des étoiles sur Apple Podcast.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut Anne-Laure.
Salut.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Monté et mixé par Laurie Galigani. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. À la prise de son, Matteo Krebs du Melodium Studio. Coordination, Ashley Tola.